santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé est consacrée à la drépanocytose. Cette maladie du sang liée à une anomalie de l'hémoglobine est responsable d'anémie chronique, d'une tendance accrue à certaines infections et de crises douloureuses intenses. Alors, c'est l'une des maladies génétiques les plus répandues au monde, mais paradoxalement, on pourrait dire que c'est aussi l'une des plus méconnues. Chaque année dans le monde, 500 000 bébés naissent atteints de drépanocytose. 50% d'entre eux n'atteindront jamais leur 5e anniversaire car ils n'ont pas accès au traitement, mais ce n'est pas le cas si on a accès au traitement. Alors pour en parler, je reçois le professeur Frédéric Galactéros, qui est responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondeur à Créteil, en banlieue parisienne. Si vous souhaitez participer, poser une question, apporter votre témoignage, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Ibrahima Diagne, qui est pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert Royer à Dakar, spécialiste de la drépanocytose. Et pour terminer, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau qui a lieu dimanche, nous parlerons de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement dans les pays en développement. Professeur Galactéros, bonjour.
Bonjour.
Je suis toujours très heureuse de vous recevoir dans Priorité Santé. On s'est vu régulièrement dans des congrès en Afrique. Je voudrais que vous nous expliquiez simplement cette maladie, qui n'est pas forcément toujours très simple d'ailleurs à comprendre. La drépanocytose, donc, c'est une maladie du sang.
Oui, le principal propriété du sang, c'est de circuler dans les vaisseaux sanguins. Et dans la drépanocytose, les globules rouges ont une déformation qui fait que la circulation du sang est parfois compromise. Et d'autre part, c'est des globules rouges rendus très fragiles par cette anomalie de l'hémoglobine et ils ont une tendance à se détruire très accélérée, d'où l'anémie.
Donc l'anémie, quand on parle d'anémie, c'est quoi exactement?
En termes médicaux, c'est très simple, c'est une diminution du taux normal de globules rouges. Si vous avez un taux normal aux alentours de 4-5 millions, eh bien les drépanocytaires SS, les homozygotes, ont la moitié seulement.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Pourquoi c'est embêtant de ne pas avoir assez de globules rouges?
Eh bien parce que les globules rouges ont une fonction nutritive pour l'ensemble des cellules du corps essentielles. Entre autres, ils apportent l'oxygène et ils participent à débarrasser d'un poison qui s'appelle le CO2, le gaz carbonique. Et donc, il faut qu'ils soient en nombre suffisant pour faire ce travail de façon adéquate. Ce qui fait que les drépanocytaires à l'état de repos, en général, ne ressentent pas ce problème, mais dès qu'ils ont à faire des efforts, et même relativement minimes, comme par exemple monter 2 étages ou 3 étages d'escalier, ils sont gênés, ils sont même parfois obligés de faire une pause pour reprendre respiration.
Et c'est pour ça qu'ils ont mal aussi.
Alors les douleurs viennent du fait que à certains moments, il y a des espèces d'engorgement ou d'obstruction des petits vaisseaux, et en particulier au niveau des petites veines qui succèdent directement aux capillaires, là où les échanges d'oxygène et de gaz carbonique se font. Ça provoque des douleurs extrêmement intenses parce que les tissus privés d'oxygène émettent des signaux de souffrance aigus qui se traduisent pour le patient par des douleurs qu'on a beaucoup de mal parfois à soulager.
Et en présentant cette émission, j'ai parlé aussi d'une tendance accrue à certaines infections. Pourquoi ?
Eh bien, c'est parce que dans le système sanguin, il y a un filtre qui s'appelle la RAT, qui est là, qui fait ce filtre quand il y a la drépanocytose, à la limite fonctionne trop bien et trop tôt, et ce qui fait que petit à petit il se détruit par le phénomène des obstructions des vaisseaux, et au bout de quelques temps la RAT n'est plus fonctionnelle et même elle se détruit complètement, ce qui est tout à fait habituel d'observer vers l'âge de 5 ans. Et donc comme la RAT est un filtre, cette fonction de filtre protège contre certaines infections, et c'est précisément les infections qu'on peut redouter chez les drépanocytaires.
Professeur Galactéros, une dernière question avant de prendre celle des auditeurs qui sont toujours très nombreux à vouloir vous poser des questions. Vous avez prononcé des mots comme AS et SS, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, si on compare la drépanocytose à tout autre maladie héréditaire, il y a un concept qui est simple. Certaines personnes sont transmettrices mais ne sont pas malades. Pourquoi ? Parce que dans le bagage héréditaire d'un individu, il y a toujours une duplication de l'hérédité. Une moitié vient d'origine paternelle et l'autre moitié vient d'origine maternelle. Et donc on a une seule et même hérédité, mais qui est toujours cette fusion de ces deux origines héréditaires. Et quand on est AS, ça veut dire qu'on a reçu d'un parent, père ou la mère, l'hérédité normale de l'hémoglobine, et quand on a reçu S, c'est-à-dire qu'on a reçu l'autre moitié qui est, elle, de type drépanocytaire. Et quand on a la chance d'être à AS, on n'a aucune espèce de symptôme réellement sérieux, comme on peut le voir chez les gens qui sont ESS et qui ont reçu l'hérédité S du père et de la mère.
C'est ça, SS, ça veut dire drépanocytaire, justement.
Drépanocytaire, c'est les seuls qui aient le droit d'être étiquetés, entre guillemets, drépanocytaire.
Il y a la drépanocytose à Kikwit. Drépanocytose, qu'elle a une hypocrite, bien fait au Kema. Problème, quel est le problème, maladie SS, il y a quel est le fiangol, le pessamara entre papa et maman, dans la bouche, dans ma kilayambi. Parents, faites-vous tester pour éviter la maladie. Tata, maman, ben va ben salabaté, ça n'a pas évité maladie.
Professeur Galactéros, on n'a pas tout compris, mais on a bien compris. Parents, faites-vous tester ça, et je vous vois hocher de la tête. Alors justement, on a Sandrine qui nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sandrine, je dis justement parce que c'est un extrait d'un morceau musical qui était sur Internet d'un groupe, d'une association à Kinshasa. Sandrine, bonjour.
Bonjour.
Oh là, il faut que vous parliez plus fort si vous voulez. Voilà, il faut que vous parliez plus fort si vous voulez qu'on vous entende. Voilà, c'est parfait.
Bonjour.
Vous nous avez appelé, je crois que vous avez un témoignage à nous apporter. Nous vous écoutons.
Oui, ok, d'accord. Bonjour, bon, je m'appelle Sandrine et je vis en RDC à Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'aurai bientôt 31 ans. Et ce que je voulais dire, c'est juste qu'il faut beaucoup d'amour et d'attention pour des enfants qui sont SS et... Parce que généralement, on a tendance à croire qu'on ne peut pas dépasser un certain âge, 5 ans, comme l'a dit le professeur. Mais moi, je crois que c'est possible. C'est vrai que ce n'est pas évident de vivre avec cette maladie, mais quand même, on peut y arriver.
C'est ça, parce que vous êtes vous-même, Sandrine, juste, vous ne l'avez pas précisé, mais vous êtes vous-même drépanocytaire.
Oui, je le suis.
Voilà.
Je suis drépanocytaire. Je vais fêter mes 31 ans dans quelques mois. Et bon, c'est possible, c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de suivi médical, mais c'est également beaucoup d'amour et d'attention de la part des parents et de toute la famille.
Et ça, vous l'avez reçu, cet amour et cette attention, on l'entend.
Oui, oui. Beaucoup d'amour. Il faut dire que j'ai eu la chance de naître dans une famille assez exceptionnelle, où ma mère est infirmière, donc dès mon plus jeune âge déjà, c'est elle qui m'a prise en charge, qui m'a suivie, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, voilà. Donc,
et à l'école, comment ça s'est passé?
Comment?
Et à l'école, ça s'est passé comment quand vous étiez petite?
À l'école, quand j'étais très petite, c'était pas toujours facile parce que j'étais très souvent malade. Donc je me retrouvais souvent à faire mes examens de fin d'année toute seule dans une salle alors que tout le monde était parti déjà en vacances. Mais bon, c'est possible. Beaucoup d'encouragement aussi de la part du corps d'enseignement, de la part de l'école et de la part des parents et des amis.
Sandrine, votre témoignage, il est vraiment très important parce que c'est important qu'on puisse dire qu'on peut aller bien. Et quand vous avez dit que c'était le professeur Galactéros qui avait dit qu'on n'atteignait pas l'âge de 5 ans, c'est moi qui l'ai dit en début d'émission, mais j'ai bien dit quand on n'a pas accès au traitement. Et vous êtes bien dans une situation où vous avez eu accès au traitement, professeur Galactéros.
Oui, vous résumez très très bien la réalité. La drépanocytose, c'est une maladie qui répond à tous nos soins et de façon favorable, que ce soit des soins médicaux ou que ce soit des soins parentaux ou encore du corps social comme les enseignants par exemple. Et donc la faute principale qu'il ne faudrait pas commettre avec la drépanocytose, c'est de se décourager et de dire à quoi bon, comme ça peut être dit par-ci par-là. C'est une grave faute. Bien sûr, vous pensez bien que dans la bouche d'un médecin, c'est encore plus énorme comme faute. Mais dans la société tout entière, c'est comme ça. Et c'est une maladie chronique, donc c'est vrai qu'elle est toujours là, et c'est pas une raison pour se décourager d'une quelconque façon. On arrive à d'excellents résultats
avec une bonne prise en charge. Alors on va voir tout au long de cette émission justement en quoi consiste cette bonne prise en charge. Sandrine, merci vraiment beaucoup pour votre téléphone. Et on a Célestin qui nous appelle du Togo. Célestin, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
Oui, j'ai un enfant qui a été, il a été testé par électrophorèse en 1996. Bon, nous avons consulté un médecin qui ne vit plus actuellement, qui lui a prescrit un médicament plus les conseils, vitamine B9, qu'il prend un comprimé tous les 3 jours pendant 1 mois. Bon, pour les conseils, il a demandé d'éviter les jeux durs, prendre beaucoup d'eau pour se déshydrater et pour s'hydrater, car les drépanocytaires se déshydratent vite. Actuellement, il ne souffre pratiquement plus après le respect des conseils de son médecin.
Et il a quel âge, votre fils, Célestin?
Bon, il a 25 ans.
Il a 25 ans, d'accord. Et vous aviez une question à poser au professeur Galactéros?
Bon, je voudrais lui demander des conseils à me donner.
Bonjour, monsieur.
Bon, pour ces conseils, j'en ai déjà eu. Bon, j'ai écouté la radio, j'en ai déjà eu.
Parce que vous avez déjà écouté, on a déjà fait des émissions là-dessus. Mais le professeur Galactéros va vous donner des conseils, mais je pense qu'ils vont rejoindre ce qu'ont donné votre médecin, justement.
Tout à fait au début. Bonjour, monsieur. Vous avez dit que votre enfant était AS, c'est ça?
Oui.
Il est AS ou SS?
Il est AS.
Oui, c'est ça. Donc là, je pense que il est tout à fait normal qu'il aille bien, cet enfant, hein, puisque les personnes AS ne peuvent pas être considérées comme des réellement drépanocytaires. Bien sûr, je suis un peu trop loin de vous pour regarder les documents et faire véritablement un travail médical. Mais je dois quand même dire à l'intention des auditeurs que malgré tout ce qu'on dit, les AS ne souffrent de toute façon, même s'il y a quelques petits problèmes parfois, ça c'est sans aucune mesure avec ce que reconnaissent les drépanocytaires SS.
Est-ce qu'on peut dire clairement que quand on est AS, on n'est pas malade?
Ben, on n'est pas malade de drépanocytose, en tout cas. On peut avoir parfois quelques problèmes que l'on attribue à tort ou à raison à la drépanocytose, et souvent à tort. Et quand on cherche un peu mieux, on s'aperçoit que les douleurs qui sont la fatigue, etc., qui sont attribuées à la drépanocytose, viennent de toute autre cause, et chez les hétérozygotes.
Et c'est la notion toujours très compliquée, professeur Galactéros, de comprendre cette notion de porteur sain. C'est-à-dire qu'on peut être porteur du gène, c'est ça quand on est AS, mais on n'est pas malade.
Oui, c'est vrai, et c'est vrai pour beaucoup de maladies génétiques. Par exemple, une femme qui peut transmettre l'hémophilie à ses garçons, l'immense majorité des cas, elle n'a aucun symptôme d'hémophilie, elle ne saigne pas, elle n'a pas d'hémorragie.
Elle est juste porteuse du gène de l'hémophilie,
voilà,
c'est la même chose pour la drépanocytose.
Elle est susceptible de le transmettre, il y a d'autres maladies comme ça.
Merci beaucoup Célestin pour votre question.
Priorité santé. Claire Hédon.
Aujourd'hui, je reçois le professeur Galactéros, qui est responsable de l'unité fonctionnelle maladie génétique du globule rouge à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, en banlieue parisienne. Et nous avons maintenant au téléphone le professeur Ibrahima Diagne, pédiatre à l'hôpital d'enfants Albert Royer à Dakar, au Sénégal. Vous êtes Ibrahima Diagne, spécialiste de la drépanocytose. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour Claire.
Alors 2 ans après le congrès international sur la drépanocytose de Dakar, où on était, nous, Priorité Santé, le professeur Galactéros était là aussi, il a aussi d'ailleurs répondu aux questions des auditeurs présents à Dakar. Où est-ce qu'on en est, professeur Diagne?
Oui, bonjour au professeur Galactéros.
Bonjour Ibrahima.
Effectivement, notre président du comité scientifique à cette époque. Disons que le congrès, je rappelle que ça s'est tenu donc en novembre 2006, alors, ça a eu un effet très important au niveau de la population, au moins localement au Sénégal, parce que ça a été une bouffée d'oxygène de parler de la drépanocytose à une échelle aussi large pour la première fois. Alors, depuis lors, il y a eu beaucoup d'actions qu'on peut, dans lesquelles je pense que le Congrès a participé en partie, mais pas seulement, parce que le Congrès, je l'appelle, c'était une étape après d'autres événements internationaux. On peut situer au moins à trois niveaux les progrès. D'abord, au niveau du plaidoyer, donc vous l'avez répété plusieurs fois dans vos émissions au niveau de RFI, il y a eu successivement, par l'intervention des États et des premières dames d'Afrique, la reconnaissance de la drépanocytose comme problème ou priorité de santé publique, disons, dans le monde d'une façon plus générale, successivement par l'UNESCO, ensuite par l'Union africaine, par l'Assemblée mondiale de la santé, l'OMS, et plus récemment, le 22 décembre dernier, par les Nations unies. Donc, ce qui fait que, sur le plan international, il y a eu quand même des progrès très, très, très importants. Au niveau de la sensibilisation, au Sénégal, en tout cas localement, nous avons continué à faire beaucoup de sensibilisation au niveau des institutions, si bien que beaucoup de ministères, l'Assemblée nationale, etc. ont été rencontrés. Et également au niveau de la population. Et là, au moment où je vous parle, actuellement, il y a une campagne de sensibilisation dans la région de Dakar qui est menée au niveau des populations avec l'aide de l'association Éducation Santé.
Et alors justement, professeur Ibrahim Adiane, est-ce que concrètement, vous, dans votre service, ça veut dire que vous voyez de plus en plus de parents venir faire dépister leurs enfants?
Ah oui, le Congrès a créé un boom important dans la prise de conscience sur la question de la drépanocytose. Disons, beaucoup de personnes qui avaient des manifestations liées à la drépanocytose ont pu faire le diagnostic chez leur patient. Et également, il y a eu un rush vers les centres de prise en charge, notamment chez nous au niveau de l'hôpital d'enfants, également au niveau du Centre national de transfusion sanguine et d'autres structures.
C'est ça, parce que j'imagine bien, enfin on le sait bien, c'est pas j'imagine, d'ailleurs je le sais bien que dans votre service à l'hôpital Albert Royer à Dakar, il y a d'énormes progrès qui sont faits pour la prise en charge des patients drépanocytaires, mais maintenant ce qu'il faut, je dirais, c'est décentraliser cette prise en charge. Est-ce que vous y arrivez?
Oui, moi personnellement, je suis donc le point focal chargé de la lutte contre la drépanocytose au niveau du ministère de la Santé. Et à ce titre, nous avons, depuis, donc juste après le Congrès, mis en place un plan stratégique pour 5 ans pour développer toutes les actions qui vont dans le sens d'une meilleure prise en charge de la question de la drépanocytose à l'échelle nationale. Et dans ce cadre, nous avons élaboré un document de formation qui est en cours de finalisation. Et nous allons surtout le continuer en 2009 et 2010 à former les médecins au niveau des structures périphériques pour que la prise en charge se fasse de façon homogène et effective au niveau des régions, parce que jusque-là, il y a beaucoup de malades qui nous viennent de l'extrême, des régions extrêmement éloignées du pays et même parfois des pays limitrophes.
Professeur Galactéro, cette prise en charge, elle est vraiment en train de s'améliorer, il faut le dire. Dans plusieurs pays d'Afrique, d'ailleurs, pas que le Sénégal.
C'est incontestable, et que ce congrès qui avait été très encouragé par Madame Viviane Wade avait été conçu non pas comme un congrès pour spécialistes et entre spécialistes, mais très très ouvert au monde associatif et aux praticiens généralistes, au personnel non médical de soins également. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment ouvrir l'information très largement, parce que l'information est un point stratégique clé dans la lutte contre cette maladie.
Professeur Ibrahim Adiane, merci. Professeur Galactéros, on se retrouve après les informations, toujours pour parler de la drépanocytose. Et pour terminer, nous parlerons de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement dans les pays en développement. Alors si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.